Les frères Karamazov, livre 11, chapitre 7. Deuxième entrevue avec Smerdiakov. Smerdiakov était sorti de l'hôpital. Il demeurait dans cette maisonnette affaissée qui se composait de deux pièces réunies par un vestibule. Marie Kondratievna et sa mère habitaient l'une, l'autre était occupée par Smerdiakov. On ne savait pas exactement à quel titre il s'était installé chez elle. Plus tard, on supposa qu'il y vivait comme fiancé de Marie Kondratievna et ne payait pour le moment aucun loyer. La mère et la fille l'estimaient beaucoup et le considéraient comme supérieur à elle. Après avoir frappé, Ivan, sur les indications de Marie Kondratievna, entra directement à gauche dans la pièce occupée par Smerdiakov. Un poêle de faïence dégageait une chaleur intense. Les murs étaient ornés de papier bleu, mais déchiré, sous lequel, dans les fentes, fourmillaient les cafards, dont on entendait le bruissement continu. Le mobilier était insignifiant. Deux bancs contre les murs et deux chaises près de la table, toute simple, mais recouverte d'une nappe à ramages roses. Sur les fenêtres, des géraniums. Dans un coin, des images saintes. Sur la table reposait un petit samovar en cuivre, fortement cabossé, avec un plateau et deux tasses, mais il était éteint, Smerdiakov ayant déjà pris le thé. Assis sur un banc, il écrivait dans un cahier. À côté de lui se trouvait une petite bouteille d'encre et une bougie dans un chandelier de fonte. En regardant Smerdiakov, Ivan eut l'impression qu'il était complètement rétabli. Il avait le visage plus frais, plus plein, les cheveux pommadés. Vêtu d'une robe de chambre bariolée, doublée d'ouate et passablement usée, il portait des lunettes, et ce détail qu'il ignorait eut le don d'irriter Ivan Fiodorovitch. « Une pareille créature portait des lunettes ?» Smerdiakov releva lentement la tête, fixa le visiteur à travers ses lunettes. Il les ôta, puis se leva avec nonchalance, moins par respect que pour observer la stricte politesse. Ivan remarqua tout cela en un clin d'œil, et surtout le regard malveillant et même hautain de Smerdiakov. « Que viens-tu faire ici? Nous nous sommes déjà entendus, » semblait-il dire. Ivan Fiodorovitch se contenait à peine. « Il fait chaud ici, » dit-il encore debout en déboutonnant son pardessus. « Ôtez-le, » suggéra Smerdiakov. Ivan Fiodorovitch ôta son pardessus. Puis, de ses mains tremblantes, il prit une chaise, l'approcha de la table, s'assit. Smerdiakov avait déjà repris sa place. « D'abord, sommes-nous seuls ?» demanda sévèrement Ivan Fiodorovitch. « Ne peut-on pas nous entendre ?»« Personne. Vous avez vu qu'il y a un vestibule. » »« Écoute, alors. Quand je t'ai quitté à l'hôpital... Tu m'as dit que si je ne parlais pas de ton habileté à simuler l'épilepsie, tu ne rapporterais pas au juge toute notre conversation près de la porte cochère. Que signifie ce « toute » Qu'entendais-tu par là? Était-ce une menace? Existe-t-il une entente entre nous? Ai-je peur de toi? » Ivan Fiodorovitch parlait avec colère, donnait clairement à entendre qu'il méprisait les détours, jouait carte sur table. Smerdiakov eut un mauvais regard. Son œil gauche se mit à cligner, comme pour dire, avec sa réserve habituelle, « Tu veux y aller carrément ? Soit. » Je voulais dire alors que, prévoyant l'assassinat de votre propre père, vous l'avez laissé sans défense. C'était une promesse de me taire pour empêcher des jugements défavorables sur vos sentiments ou même sur autre chose. Smerdiakov prononça ces paroles sans se hâter, paraissant maître de lui, mais d'un ton âpre, provoquant. Il fixa Ivan Fiodorovitch d'un air insolent. « Comment? Quoi? Es-tu dans ton bon sens? » « J'ai tout mon bon sens. » « Étais-je alors au courant de l'assassinat? » s'écria Ivan en donnant un formidable coup de poing sur la table. « Et que signifie « sur autre chose »? Parle, misérable !» Smerdiakov se taisait, avec la même insolence dans le regard. « Parle donc, infecte canaille, de cette autre chose !»« Eh bien, Je voulais dire par là que vous-même, peut-être, désiriez vivement la mort de votre père. » Ivan Fiodorovitch se leva, frappa de toutes ses forces Merdiakov à l'épaule. Celui-ci chancela jusque vers le mur, les larmes inondèrent son visage. « C'est honteux, monsieur, de frapper un homme sans défense. » Il se couvrit la figure de son malpropre mouchoir à carreaux bleus et se mit à sangloter. « Assez ! Cesse donc !» dit impérieusement Ivan qui se rassit. « Ne me pousse pas à bout !» Smerdiakov découvrit ses yeux. Sa figure ridée exprimait une vive rancune. « Ainsi, misérable, tu croyais que de concert avec Dmitri, je voulais tuer mon père ?»«
Je ne connaissais pas vos pensées, et c'est pour vous sonder que je vous ai arrêté au passage. »«
Quoi ? Sonder quoi ?»«
Vos intentions, si vous désiriez que votre père fût promptement tué. »
Ce qui exaspérait Ivan Fiodorovitch, c'était le ton impertinent dont Smerdiakov ne voulait pas se départir.
« C'est toi qui l'as tué !»
s'écria-t-il soudain.
Smerdiakov sourit, dédaigneux. « Vous savez parfaitement que ce n'est pas moi, et j'aurais cru qu'un homme d'esprit n'insisterait pas là-dessus.
« Mais pourquoi as-tu nourri un tel soupçon à mon égard ?»«
Par peur, comme vous le savez. J'étais dans un tel état que je me défiais de tout le monde. Je voulais aussi vous sonder, car, me disais-je, s'il est d'accord avec son frère, c'en est fait de moi. »
« Tu ne parlais pas ainsi il y a 15 jours. »
« Je sous-entendais la même chose à l'hôpital, supposant que vous comprendriez à demi-mot et que vous évitiez une explication directe. »«
Voyez-vous ça ? Mais réponds donc, j'insiste. Comment ai-je pu inspirer à ton âme vile cet ignoble soupçon ?»«
Vous étiez incapable de tuer vous-même, mais vous souhaitiez qu'un autre le fît. »
« Avec quel flegme il parle ! Mais pourquoi l'aurais-je voulu ?»«
Comment, pourquoi ? Et l'héritage ?» dit perfidement Smerdiakov. « Après la mort de votre père, vous deviez recevoir 40 000 roubles chacun, si ce n'est davantage. Mais si Fiodor Pavlovitch avait épousé cette dame, Agrafena Alexandrovna, elle aurait aussitôt transféré le capital à son nom, car elle n'est pas sotte. » De sorte qu'il ne saurait rien rester pour vous trois. Ça n'a tenu qu'à un fil. Elle n'avait qu'à dire un mot. Il l'a menée à l'hôtel.
Ivan Fiodorovitch avait peine à se contenir.
« C'est bien, » dit-il enfin. « Tu vois, je ne t'ai ni battu ni tué. Continue. Alors, d'après toi, j'avais chargé mon frère Dmitri de cette besogne. Je comptais sur lui. »
« Certainement. En assassinant, il perdait tous ses droits. » Il était dégradé et déporté. Votre frère Alexei Fiodorovitch et vous, héritiers de sa part, et ce n'est pas 40 000 roubles, mais 60 000 roubles qui vous revenaient à chacun. Sûrement vous comptiez sur Dmitri Fiodorovitch.
Tu mets ma patience à l'épreuve. Écoute, gredin, si j'avais compté à ce moment sur quelqu'un, c'eût été sur toi, non sur Dmitri. Et, je le jure, je pressentais quelque infamie de ta part. Je me rappelle mon impression.
Moi aussi, j'ai cru un instant que vous comptiez sur moi, dit ironiquement Smerdiakov, de sorte que vous vous démasquiez encore davantage, car si vous partiez malgré ce pressentiment, cela revenait à dire « Tu peux tuer mon père, je ne m'y oppose pas. »
Misérable, tu avais compris cela.
Pensez un peu, vous alliez partir pour Moscou. Vous refusiez, malgré les prières de votre père, de vous rendre à Tchermachnia, et vous y consentez tout à coup sur un mot de moi. Qu'est-ce qui vous poussait à ce Tchermachnia ? Pour partir ainsi sans raison, sur mon conseil, il fallait que vous attendiez quelque chose de moi.
« Non, je jure que non !»
cria Ivan en grinçant des dents.
« Comment, non ? Vous auriez dû, au contraire, vous, le fils de la maison, pour de telles paroles, me mener à la police et me faire fouetter, tout au moins me rosser sur place. Au lieu de vous fâcher, vous suivez consciencieusement mon conseil. Vous partez. Chose absurde, car vous auriez dû rester pour défendre votre père. Que devais-je conclure ?
Yvan avait l'air sombre, les poings crispés sur ses genoux. « Oui, je regrette de ne t'avoir pas rossé, » dit-il avec un sourire amer. « Je ne pouvais te mener à la police, on ne m'aurait pas cru sans preuve. Mais te rosser, ah, je regrette de n'y avoir pas songé. Bien que les voies de fait soient interdites, je t'aurais mis le museau en marmelade. »
Smerdiakov le considérait presque avec volupté.
« Dans les cas ordinaires de la vie, » proféra-t-il d'un ton satisfait et doctoral, comme lorsqu'il discutait sur la foi avec Grigori Vassilievitch. « Les voies de fait sont réellement interdites par la loi. On a renoncé à ces brutalités. Mais dans les cas exceptionnels, chez nous, comme dans le monde entier, même dans la République française, on continue à se colter comme au temps d'Adam et Ève, et il en sera toujours ainsi. Pourtant vous, même dans un cas exceptionnel, vous n'avez pas osé.
« Ce sont des mots français que tu apprends, là ?» demanda Yvan en désignant un cahier sur la table.
« Pourquoi pas ? Je complète mon instruction, dans l'idée qu'un jour, peut-être, je visiterai, moi aussi, ces heureuses contrées de l'Europe. »«
Écoute, monstre !» dit Yvan qui tremblait de colère. « Je ne crains pas les accusations. Dépose contre moi tout ce que tu voudras. Si je ne t'ai pas assommé tout à l'heure, c'est uniquement parce que je te soupçonne de ce crime et que je veux te livrer à la justice. Je te démasquerai. »
À mon avis, vous feriez mieux de vous taire, car que pouvez-vous dire contre un innocent et qui vous croira? Mais si vous m'accusez, je raconterai tout. Il faut bien que je me défende.
Tu penses que j'ai peur de toi maintenant?
Admettons que la justice ne croit pas à mes paroles. En revanche, le public y croira, et vous aurez honte.
Cela veut dire qu'il y a plaisir à causer avec un homme d'esprit, n'est-ce pas?
Demanda Yvan en grinçant des dents.
Vous l'avez dit, faites preuve d'esprit.
Ivan Fiodorovitch se leva, frémissant d'indignation, mit son pardessus, et sans plus répondre à Smerdiakov, sans même le regarder, se précipita hors de la maison. Le vent frais du soir le rafraîchit. Il faisait clair de lune. Les idées et les sensations tourbillonnaient en lui.
« Allez maintenant dénoncer Smerdiakov ? Mais que dire ? Il est pourtant innocent. C'est lui qui m'accusera, au contraire. En effet, pourquoi suis-je parti alors à Tchermachnia ? Dans quel dessein ? Certainement, j'attendais quelque chose. Il a raison. »
Pour la centième fois, il se rappelait comment, la dernière nuit passée chez son père, il se tenait sur l'escalier, aux aguets. Et cela lui causait une telle souffrance qu'il s'arrêta même, comme percé d'un coup de poignard.
« Oui, j'attendais cela. Alors, c'est vrai, j'ai voulu l'assassinat. L'ai-je voulu ? Il faut que je tue Smerdiakov. Si je n'en ai pas le courage, ce n'est pas la peine de vivre. »
Ivan alla tout droit chez Catherine Ivanovna, qui fut effrayée de son air hagard. Il lui répéta toute sa conversation avec Smerdiakov jusqu'au moindre mot. Bien qu'elle s'efforçât de le calmer, il marchait de long en large en tenant des propos incohérents. Il s'assit enfin, s'accouda sur la table, la tête entre les mains, et fit une étrange réflexion.
« Si ce n'est pas Dmitri, mais Smerdiakov, je suis son complice, car c'est moi qui l'ai poussé au crime. L'y ai-je poussé ? Je ne le sais pas encore. Mais si c'est lui qui a tué et non pas Dmitri, je suis aussi un assassin. »
À ces mots, Catherine Ivanovna se leva en silence, alla à son bureau, prit dans une assiette un papier qu'elle posa devant Yvan. C'était la lettre dont celui-ci avait parlé ensuite à Alyosha comme d'une preuve formelle de la culpabilité de Dmitri. Mitya l'avait écrite en état d'ivresse, le soir de sa rencontre avec Alyosha, quand celui-ci retournait au monastère après la scène où Grushenka avait insulté sa rivale. Après l'avoir quittée, Mitya courut chez Grushenka, on ne sait s'il la vit, mais il acheva la soirée au cabaret, à la capitale, où il s'enivra de la belle manière. Dans cet état, il demanda une plume, du papier, et griffonna une lettre prolixe, incohérente, digne d'un ivrogne. On aurait dit un pochard, qui, rentré chez lui, raconte avec animation à sa femme ou à son entourage qu'une canaille vient de l'insulter, lui, galant homme, qu'il en cuira à l'individu. L'homme dégoise à n'en plus finir, ponctuant de coups de poing sur la table son récit incohérent, ému jusqu'aux larmes. Le papier à lettres qu'on lui avait donné au cabaret était une feuille grossière, malpropre, portant un conte au verso. La place manquant pour ce verbiage d'ivrogne, Mitya avait rempli les marges et écrit les dernières lignes en travers du texte. Voici ce que disait la lettre. Fatal Katia, demain je trouverai de l'argent et je te rendrai tes 3 000 roubles. Adieu, femme irascible. Adieu aussi, mon amour. Finissons-en. Demain j'irai demander de l'argent à tout le monde. Si on me refuse, je te donne ma parole d'honneur que j'irai chez mon père. Je lui casserai la tête et je prendrai l'argent sous son oreiller, pourvu qu'Ivan soit parti. J'irai au bagne, mais je te rendrai tes 3 000 roubles. Toi, adieu. Je te salue jusqu'à terre. Je suis un misérable vis-à-vis de toi. Pardonne-moi. Plutôt non, ne me pardonne pas. Nous serons plus à l'aise, toi et moi. Je préfère le bagne à ton amour, car j'en aime une autre. Tu la connais trop depuis aujourd'hui. Comment pourrais-tu pardonner? Je tuerai celui qui m'a dépouillé. Je vous quitterai tous pour aller en Orient, ne plus voir personne. Elle non plus, car tu n'es pas seule à me faire souffrir. Adieu. Post-scriptum. Je te maudis, et pourtant je t'adore. Je sens mon cœur battre. Il reste une corde qui vibre pour toi. Ah, qu'il éclate plutôt! Je me tuerai, mais je tuerai d'abord le monstre. Je lui arracherai les 3 000 roubles, et je te les jetterai. Je serai un misérable à tes yeux, mais pas un voleur. Attends les 3 000 roubles. Ils sont chez le chien maudit, sous son matelas, ficelé d'une faveur rose. Ce n'est pas moi le voleur. Je tuerai l'homme qui m'a volé. Katia, ne me méprise pas. Dimitri est un assassin, il n'est pas un voleur. Il a tué son père et il s'est perdu pour n'avoir pas à supporter ta fierté et pour ne pas t'aimer. Post-post-scriptum. Je baise tes pieds. Adieu. Post-post-post-scriptum. Katia, prie Dieu pour qu'on me donne de l'argent. Alors je ne verserai pas le sang. Mais si l'on me refuse, je le verserai. Tue-moi, ton esclave et ton ennemi. D. Karamazov. Après avoir lu ce document, Ivan fut convaincu. C'était son frère qui avait tué, et non Smerdiakov. Si ce n'était pas Smerdiakov, ce n'était donc pas lui, Ivan. Cette lettre constituait à ses yeux une preuve catégorique. Pour lui, il ne pouvait plus y avoir aucun doute sur la culpabilité de Mitya. Et comme il n'avait jamais soupçonné une complicité entre Mitya et Smerdiakov, car cela ne concordait pas avec les faits, il était complètement rassuré. Le lendemain, il ne se rappela qu'avec mépris Smerdiakov et ses railleries. Au bout de quelques jours, il s'étonna même d'avoir pu s'offenser si cruellement de ses soupçons. Il résolut de l'oublier tout à fait. Un mois se passa ainsi. Il apprit par hasard que Smerdiakov était malade de corps et d'esprit. « Cet individu deviendra fou !» avait dit à son sujet le jeune médecin Varvinsky. Vers la fin du mois, Ivan lui-même commença à se sentir fort mal. Il consultait déjà le médecin mandé de Moscou par Catherine Ivanovna. Vers la même époque, les rapports des deux jeunes gens s'aigrirent à l'extrême. C'était comme deux ennemis amoureux l'un de l'autre. Les retours de Catherine Ivanovna vers Mitya, passagers mais violents, exaspéraient Ivan. Chose étrange, jusqu'à la dernière scène en présence d'Alyosha à son retour de la prison, lui, Ivan, n'avait jamais entendu durant tout le mois Catherine Ivanovna douter de la culpabilité de Mitya, malgré ses retours vers celui-ci, qui lui était si odieux. Il était aussi remarquable que, sentant sa haine pour Mitya grandir de jour en jour, Ivan comprenait en même temps qu'il le haïssait non à cause des retours vers lui de Catherine Ivanovna, mais pour avoir tué leur père. Il s'en rendait parfaitement compte. Néanmoins, 10 jours avant le procès, il était allé voir Mitya et lui avait proposé un plan d'évasion. évidemment conçu depuis longtemps. Cette démarche était inspirée en partie par le dépit que lui causait l'insinuation de Smerdiakov, que lui, Ivan, avait intérêt à ce que son frère fût accusé, car sa part d'héritage et celle d'Alyosha monteraient de 40 à 60 000 roubles. Il avait décidé d'en sacrifier 30 000 pour faire évader Mitya. En revenant de la prison, il était triste et troublé. Il eut soudain l'impression qu'il ne désirait pas seulement cette évasion pour effacer son dépit. Serait-ce aussi parce que, au fond de mon âme, je suis un assassin? S'était-il demandé. Il était vaguement inquiet et ulcéré. Et surtout, durant ce mois, sa fierté avait beaucoup souffert. Mais nous en reparlerons. Lorsqu'Ivan Fiodorovitch, après sa conversation avec Alyosha, et déjà à la porte de sa demeure, avait résolu d'aller chez Smerdiakov, il obéissait à une indignation subite qu'il avait saisie. Il se rappela tout à coup que Catherine Ivanovna venait de s'écrier en présence d'Alyosha « C'est toi, toi seulement, qui m'as persuadé qu'il, c'est-à-dire Mitya, était l'assassin. » À ce souvenir, Ivan demeura stupéfait. Il ne l'avait jamais assuré de la culpabilité de Mitya. Au contraire, il s'était même soupçonné en sa présence, en revenant de chez Smerdiakov. En revanche, c'est elle qui lui avait alors exhibé ce document et démontré la culpabilité de son frère. Et maintenant elle s'écriait « Je suis allée moi-même chez Smerdiakov !» Quand cela, Ivan n'en savait rien. Elle n'était donc pas bien convaincue. Et qu'avait pu lui dire Smerdiakov? Il eut un accès de fureur. Il ne comprenait pas comment, une demi-heure auparavant, il avait pu laisser passer ses paroles sans se récrier. Il lâcha le cordon de la sonnette et se rendit chez Smerdiakov. « Je le tuerai peut-être cette fois », songeait-il en chemin. Chapitre 8. Troisième et dernière entrevue avec Smerdiakov. Durant le trajet, un vent âpre s'éleva, le même que le matin, amenant une neige fine, épaisse et sèche. Elle tombait sans adhérer au sol, le vent la faisait tourbillonner, et ce fut bientôt une vraie tourmente. Dans la partie de la ville où habitait Smerdiakov, il n'y a presque pas de réverbère. Ivan marchait dans l'obscurité en s'orientant d'instinct. Il avait mal à la tête, les tempes lui battaient, son pouls était précipité. Un peu avant d'arriver à la maisonnette de Marie Kondratievna, il rencontra un homme pris de boisson, au cafetan rapiécé, qui marchait en zigzag en invectivant, s'interrompant parfois pour entonner une chanson d'une voix rauque. « Pour Peter et parti Vanka, je ne l'attendrai pas !» Mais il s'arrêtait toujours au second vers et recommençait ses imprécations. Depuis un bon moment, Ivan Fiodorovitch éprouvait inconsciemment une véritable haine contre cet individu. Tout à coup, il s'en rendit compte. Aussitôt, il eut une envie irrésistible de l'assommer. Juste à ce moment, ils se trouvèrent côte à côte, et l'homme, en titubant, heurta violemment Ivan. Celui-ci repoussa avec rage l'ivrogne qui s'abattit sur la terre gelée, exhala un gémissement et se tut. Il gisait sur le dos, sans connaissance. Il va geler, pensa Ivan qui poursuivit son chemin. Dans le vestibule, Marie Kondratievna, qui était venue ouvrir, une bougie à la main, lui dit à voix basse que Pavel Fiodorovitch, c'est-à-dire Smerdiakov, était très souffrant et paraissait détraqué. Il avait même refusé de prendre le thé. Alors, il fait du tapage? S'informa Ivan. Au contraire, il est tout à fait calme, mais ne le retenez pas trop longtemps, demanda Marie Kondratievna. Ivan entra dans la chambre. Elle était toujours aussi surchauffée, mais on y remarquait quelques changements. Un des bancs avait fait place à un grand canapé en faux acajou, recouvert de cuir, arrangé comme lit avec des oreillers assez propres. Smerdiakov était assis, toujours vêtu de sa vieille robe de chambre. On avait mis la table devant le canapé, de sorte qu'il restait fort peu de place. Il y avait sur la table un gros livre à couverture jaune. Smerdiakov accueillit Ivan d'un long regard silencieux et ne parut nullement surpris de sa visite. Il avait beaucoup changé physiquement, le visage fort amaigri et jaune, les yeux caves, les paupières inférieures bleuies. « Tu es vraiment malade ?» dit Ivan Fiodorovitch. « Je ne te retiendrai pas longtemps. Je garde même mon pardessus. Où peut-on s'asseoir ?» Il approcha une chaise de la table et prit place. « Pourquoi ne parles-tu pas ? Je n'ai qu'une question à te poser, mais je te jure que je ne partirai pas sans réponse. Catherine Ivanovna est venue te voir ?» Smerdiakov ne répondit que par un geste d'apathie et se détourna.
« Qu'as-tu ?»«
Rien. »«
Quoi, rien ?»«
Eh bien, oui, elle est venue. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Laissez-moi tranquille. »«
Non, parle. Quand est-elle venue ?»«
Mais j'en ai perdu le souvenir. »
Smerdiakov sourit avec dédain. Tout à coup, il se tourna vers Ivan, le regard chargé de haine comme un mois auparavant.
« Je crois que vous êtes aussi malade, comme vous avez les joues creuses, l'air défait. »«
Laisse ma santé et réponds à ma question. »«
Pourquoi vos yeux sont-ils si jaunes ? Vous devez vous tourmenter. »
Il ricana.
« Écoute, je t'ai dit que je ne partirai pas sans réponse !»
s'écria Ivan exaspéré.
« Pourquoi cette insistance ? Pourquoi me torturez-vous ? » dit Smerdiakov d'un ton douloureux.
Hé, hey, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Réponds, et je m'en vais.
Je n'ai rien à vous répondre.
Je t'assure que je te forcerai à parler.
Pourquoi vous inquiétez-vous ?
Demanda Smerdiakov en le fixant avec plus de dégoût que de mépris.
Parce que c'est de mal jugement.
Mais vous ne risquez rien. Rassurez-vous donc une bonne fois. Rentrez tranquillement chez vous. Dormez en paix, vous n'avez rien à craindre.
« Je ne te comprends pas. Pourquoi craindrais-je demain ?»
dit Ivan, surpris, et qui tout à coup se sentit glacé d'effroi. Smerdiakov le toisa.
« Vous ne comprenez pas, » fit-il d'un ton de reproche. « Pourquoi diantre un homme d'esprit éprouve-t-il le besoin de jouer pareille comédie ?»
Ivan le regardait sans parler. Le ton inattendu, arrogant, dont lui parlait son ancien domestique, sortait de l'ordinaire.
Je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Je ne déposerai pas contre vous, il n'y a pas de preuves.
Voyez comme vos mains tremblent.
Pourquoi ça ? Retournez chez vous, ce n'est pas vous l'assassin.
Ivan tressaillit. Il se souvint d'Alyosha.
Je sais que ce n'est pas moi, murmura-t-il.
Vous le savez ?
Ivan se leva, le saisit par l'épaule.
« Parle, vipère ! Dis tout !»
Smerdiakov ne parut nullement effrayé. Il regarda seulement Ivan avec une haine folle.
« Alors, c'est vous qui avez tué, si c'est comme ça »
murmura-t-il avec rage. Ivan se laissa retomber sur sa chaise, paraissant méditer. Enfin, il sourit méchamment.
« C'est toujours la même histoire, comme l'autre fois !»
« Oui, vous compreniez très bien la dernière fois, et vous comprenez encore maintenant. »«
Je comprends seulement que tu es fou !»«
Vraiment, nous sommes ici en tête à tête. À quoi bon nous duper ? Nous jouer mutuellement la comédie ? Voudriez-vous encore tout rejeter sur moi seul, à ma face ? Vous avez tué, c'est vous le principal assassin. Je n'ai été que votre auxiliaire, votre fidèle instrument. Vous avez suggéré... « J'ai accompli. »«
Accompli ? C'est toi qui as tué ?»
Il eut comme une commotion au cerveau. Un frisson glacial le parcourut. À son tour, Smerdiakov le considérait avec étonnement. L'effroi d'Ivan le frappait enfin par sa sincérité.
« Ne saviez-vous donc rien ? »
dit-il avec méfiance. Ivan le regardait toujours. Sa langue était comme paralysée.
« Pour Peter est parti, Vanka, je ne l'attendrai pas !»
crut-il soudain entendre.
« Sais-tu que j'ai peur que tu ne sois un fantôme ? » murmura-t-il.
« Il n'y a point de fantôme ici, sauf nous deux.
Et encore un troisième.
Sans doute, il est là maintenant.
Qui ?
Quel troisième ? Proféra Ivan avec effroi, en regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un.
« C'est Dieu, la Providence, qui est ici, près de nous. Mais inutile de le chercher, vous ne le trouverez pas. »
« Tu as menti, ce n'est pas toi qui as tué !» rugit Ivan. « Tu es fou ou tu m'exaspères à plaisir, comme l'autre fois. »
Smerdiakov, nullement effrayé, l'observait attentivement. Il ne pouvait surmonter sa méfiance. Il croyait qu'Ivan savait tout et simulait l'ignorance pour rejeter tous les torts sur lui seul.
« Attendez, »
dit-il enfin d'une voix faible, et retirant sa jambe gauche de dessous la table, il se mit à retrousser son pantalon. Smerdiakov portait des bas blancs et des pantoufles. Sans hâte, il ôta sa jarretelle et mit la main dans son bas. Ivan Fiodorovitch, qui le regardait, tressaillit soudain de frayeur.
« Démon ! »
hurla-t-il. Il se leva d'un bond, recula vivement en se cognant le dos au mur, où il demeura comme cloué sur place, les yeux fixés sur Smerdiakov avec une terreur folle. Celui-ci, imperturbable, continuait à fouiller dans son bas, s'efforçait de saisir quelque chose. Il y parvint enfin, et Ivan le vit retirer une liasse de papier qu'il déposa sur la table.
« Voilà, » dit-il à voix basse.
« Quoi ? »
« Veuillez regarder. »
Ivan s'approcha de la table, prit la liasse et commença à la défaire. Mais tout à coup, il retira ses doigts comme au contact d'un reptile répugnant, redoutable.
« Vos doigts tremblent convulsivement, » remarqua Smerdiakov, et lui-même, sans se presser, déplia le papier.
Sous l'enveloppe, il y avait 3 paquets de billets de 100 roubles.
« Tout y est. » Les 3000 au complet, inutile de compter. Prenez,
dit-il en désignant les billets. Ivan s'affaissa sur sa chaise. Il était blanc comme un linge.
Tu m'as fait peur avec ce bas,
murmura-t-il avec un étrange sourire.
Alors, vraiment, vous ne saviez pas encore?
Non, je ne savais pas. Je croyais que c'était Dmitri.
Ah, frère, frère!
Il se prit la tête à deux mains.
« Écoute, tu as tué seul, sans mon frère ?»«
Seulement avec vous seul. Dmitri Fiodorovitch est innocent. »«
c'est bien, nous parlerons de moi ensuite. Mais pourquoi tremblais-je de la sorte? Je ne puis articuler les mots. »«
Vous étiez hardi alors. Tout est permis, disiez-vous. Et maintenant vous avez la frousse. »
murmura Smerdiakov stupéfait. « Voulez-vous de la limonade? Je vais en demander, ça rafraîchit. Mais il faudrait d'abord couvrir ceci. » Il désignait l'alias. Il fit un mouvement vers la porte pour appeler Marie Kondratievna, lui dire d'apporter de la limonade. En cherchant avec quoi cacher l'argent, il sortit d'abord son mouchoir, mais comme celui-ci était fort malpropre, il prit sur la table le gros livre jaune qu'Ivan avait remarqué en entrant, et couvrit les billets avec ce bouquin intitulé « Sermon de notre Saint-Père Isaac le Syrien ».
« Je ne veux pas de limonade, » dit Ivan. « Assieds-toi et parle. Comment as-tu fait? Dis tout !»«
Vous devriez ôter votre pardessus, sinon vous serez tout en sueur. »
Ivan Fiodorovitch ôta son pardessus qu'il jeta sur le banc sans se lever.
« Parle, je t'en prie, parle !»
Il paraissait calme. Il était sûr que Smerdiakov dirait tout maintenant.
« Comment les choses se sont passées ?»
Smerdiakov soupira.
« De la manière la plus naturelle, d'après vos propres paroles. »« Nous reviendrons sur mes paroles, » interrompit Ivan,
mais sans se fâcher cette fois, comme s'il était tout à fait maître de lui.
« Raconte seulement, en détail et dans l'ordre, comment tu as fait le coup. » « Surtout n'oublie pas les détails, je t'en prie. »«
Vous êtes parti, je suis tombé dans la cave. »«
Était-ce une vraie crise ou bien simulais-tu ?»«
Je simulais, bien entendu. Je suis descendu tranquillement jusqu'en bas, je me suis étendu, après quoi j'ai commencé à hurler, et je me suis débattu pendant qu'on me transportait. »«
Un instant, et plus tard à l'hôpital, tu simulais encore ?»
« Pas du tout.
Le lendemain matin, encore à la maison, j'ai été pris d'une véritable crise, la plus forte que j'ai eue depuis des années. Je suis resté 2 jours sans connaissance.
Bien, bien, continue.
On m'a mis sur une couchette derrière la cloison. Je m'y attendais, car quand j'étais malade, Martine Yatievna m'installait toujours pour la nuit dans leur pavillon. Elle a toujours été bonne pour moi, depuis ma naissance. Pendant la nuit, je geignais de temps à autre, mais doucement. J'attendais toujours Dmitri Fiodorovitch.
Tu attendais qu'il vienne te trouver?
Mais non, j'attendais sa venue à la maison. J'étais sûre qu'il viendrait cette nuit même, car privé de mes renseignements, il devait fatalement s'introduire par escalade et entreprendre quelque chose.
Et s'il n'était pas venu?
Alors rien ne serait arrivé. Sans lui, je n'aurais pas agi.
Bien, bien, parle sans te presser. Surtout, n'omets rien.
Je comptais qu'il tuerait Fiodor Pavlovitch. À coup sûr, car je l'avais bien préparé pour ça, les derniers jours. Et surtout, il connaissait les signaux. Méfiant et emporté comme il l'était, il ne pouvait manquer de pénétrer dans la maison. Je m'y attendais.
Un instant, s'il avait tué, il aurait aussi pris l'argent. Tu devais faire ce raisonnement. Que serait-il resté pour toi? Je ne le vois pas.
Mais il n'aurait jamais trouvé l'argent. Je lui ai dit qu'il était sous le matelas. Je mentais. Auparavant, il était dans une cassette. Ensuite, comme Fiodor Pavlovitch ne se fiait qu'à moi au monde, je lui suggérais de cacher l'argent derrière les icônes, car personne n'aurait l'idée de le chercher là, surtout dans un moment de presse. Mon conseil avait plu à Fiodor Pavlovitch. Garder l'argent sous le matelas, dans une cassette fermée à clé, eût été tout bonnement ridicule. Mais tout le monde a cru à cette cachette. Raisonnement stupide. Donc, si Dmitri Fiodorovitch avait assassiné, il se serait enfui à la moindre alerte, comme tous les assassins, ou bien on l'aurait surpris et arrêté. Je pouvais ainsi, le lendemain, ou la nuit même, aller dérober l'argent. On aurait tout mis sur son compte.
Mais s'il avait seulement frappé, sans tuer.
Dans ce cas, je n'aurais certainement pas osé prendre l'argent. Mais je comptais qu'il frapperait Fiodor Pavlovitch jusqu'à lui faire perdre connaissance. Alors je m'approprierais le magot. Je lui aurais expliqué ensuite que c'était Dmitri Fiodorovitch qui avait volé.
Attends, je n'y suis plus. C'est donc Dmitri qui a tué? Tu as seulement volé?
Non, ce n'est pas lui. Certes, je pourrais encore vous dire maintenant que c'est lui, mais je ne veux pas mentir, car même si, comme je le vois, vous n'avez rien compris jusqu'à présent et ne simulez pas pour rejeter tous les torts sur moi, vous êtes pourtant coupable de tout. En effet, vous étiez prévenu de l'assassinat. Vous m'avez chargé de l'exécution et vous êtes parti. Aussi, je veux vous démontrer ce soir que le principal, l'unique assassin, c'est vous, et non pas moi, bien que j'ai tué. Légalement, vous êtes l'assassin.
Comment cela? Pourquoi suis-je l'assassin?
Ne put se défendre de demander Ivan Fiodorovitch, oubliant sa décision de remettre à la fin de l'entretien ce qui le concernait personnellement.
C'est toujours à propos de Tchermachnia?
Halte! Dis-moi pourquoi il te fallait mon consentement, puisque tu avais pris mon départ pour un consentement.
Comment m'expliqueras-tu cela?
Assuré de votre consentement, je savais qu'à votre retour, vous ne feriez pas d'histoire pour la perte de ces 3 000 roubles, si par hasard la justice me soupçonnait au lieu de Dmitri Fiodorovitch ou de complicité avec lui. Au contraire, vous auriez pris ma défense. Ayant hérité grâce à moi, vous pouviez ensuite me récompenser pour toute la vie, car si votre père avait épousé Agrafena Alexandrovna, vous n'aurez rien eu.
Oh, tu avais donc l'intention de me tourmenter toute la vie?
Dit Ivan, les dents serrées.
Et si je n'étais pas partie? Si je t'avais dénoncé?
Que pouviez-vous dire? Que je vous avais conseillé de partir pour Tchermachnia? La belle affaire. D'ailleurs, si vous étiez resté, rien ne serait arrivé. J'aurais compris que vous ne vouliez pas et me serais tenu tranquille. Mais votre départ m'assurait que vous ne me dénonceriez pas, que vous fermeriez les yeux sur ces 3 000 roubles. Vous n'auriez pas pu me poursuivre ensuite, car j'aurais tout raconté à la justice. Non le vol ou l'assassinat, cela je ne l'aurais pas dit, mais que vous m'y aviez poussé et que je n'avais pas consenti. De cette façon, vous ne pouviez pas me confondre, faute de preuves. Et moi, j'aurais révélé avec quelle ardeur vous désiriez la mort de votre père. Et tout le monde l'aurait cru, je vous en donne ma parole.
Je désirais à ce point la mort de mon père?
Certainement, et votre silence m'autorisait à agir.
Smerdiakov était très affaibli et parlait avec lassitude, mais une force intérieure le galvanisait. Il avait quelques desseins cachés. Ivan le pressentait.
« Continue ton récit. »«
Continuons. J'étais donc couché quand j'entendis votre père crier. Grigori était sorti un peu auparavant. Tout à coup, il se mit à hurler, puis tout redevint silencieux. J'attendis, immobile. Mon cœur battait, je ne pouvais plus y tenir. Je me lève, je sors. À gauche, la fenêtre de Fiodor Pavlovitch était ouverte. Je m'avançais pour écouter s'il donnait signe de vie. Je l'entendis s'agiter, soupirer. « Vivant !» me dis-je. Je m'approche de la fenêtre, je lui crie « C'est moi !»«
Il est venu, il s'est enfui !»
Il voulait parler de Dmitri Fiodorovitch.
« Il a tué Grigori !»
me répond-il.
« Où ? Là-bas, dans le coin !»«
Attendez !» dis-je.
Je me mis à sa recherche et trébuchai près du mur contre Grigori, évanoui, ensanglanté.
« C'est donc vrai que Dmitri Fiodorovitch est venu, » pensai-je, et je résolus d'en finir. Même si Grigori vivait encore, il ne verrait rien, ayant perdu connaissance. Le seul risque était que Martignatievna se réveillât. Je le sentis à ce moment, mais une frénésie s'était emparée de moi, à en perdre la respiration. Je revins à la fenêtre.
« Agrafena Alexandrovna est là, elle veut entrer. »
Il tressaillit.
« Où ?
Là ? Où ? »
Il soupira sans y croire encore.
« Mais là, ouvrez donc !»
Il me regardait par la fenêtre, indécis, craignant d'ouvrir.
« Il a peur de moi, pensais-je. C'est drôle. »
Tout à coup, j'imaginais de faire sur la croisée le signal de l'arrivée de Grushenka, devant lui, sous ses yeux. Il ne croyait plus aux paroles, mais dès que j'eus frappé, il courut ouvrir la porte. Je voulais entrer, il me barra le passage.
« Où est-elle ? Où est-elle ? »
Il me regardait en palpitant. « Eh ! » pensais-je, « s'il a une telle peur de moi, ça va mal. » Mes jambes se dérobaient. Je tremblais qu'il ne me laissât pas entrer, ou qu'il appelât, ou que Martignatievna survint. Je ne me souviens pas. Je devais être très pâle. Je chuchotais.
« Elle est là-bas, sous la fenêtre. Comment ne l'avez-vous pas vue ?
Amène-la ! Amène-la ! »
« Elle a peur. Les cris l'ont effrayée. Elle s'est cachée dans un massif. Appelez-la vous-même du cabinet. »
Il y courut, posa la bougie sur la fenêtre.
« Grushenka ! Grushenka ! Tu es ici ? »
criait-il. Il ne voulait ni se pencher ni s'écarter de moi, à cause de la peur que je lui inspirais.
« La voici ! Lui dis-je. La voici dans le massif. Elle vous sourit, voyez-vous ? »
Il me crut soudain et se mit à trembler, tant il était fou de cette femme. Il se pencha entièrement. Je saisis alors le presse-papier en fonte sur sa table, vous vous souvenez, il pèse bien 3 livres, et je lui assénai de toutes mes forces un coup sur la tête, avec le coin. Il ne poussa pas un cri. Ça fait ça. Je le frappai encore 2 fois et sentis qu'il avait le crâne fracassé. Il tomba à la renverse, tout couvert de sang. Je m'examinai, pas une éclaboussure. J'essuyai le presse-papier, le remis à sa place, puis je pris l'enveloppe derrière les icônes. J'en retirai l'argent et je la jetai à terre, ainsi que la faveur rose. J'allai au jardin tout tremblant, droit à ce pommier creux. Vous le connaissez, je l'avais remarqué, et j'y avais mis en réserve du papier et un chiffon. J'enveloppai la somme et je la fourrai au fond du creux. Elle y est restée 15 jours, jusqu'à ma sortie de l'hôpital. Je retournai me coucher, songeant avec effroi. Si Grigori est tué, ça peut aller fort mal. S'il revient à lui, ce sera très bien, car il attestera que Dmitri Fiodorovitch est venu, qu'il a par conséquent tué et volé. Dans mon impatience, je me mis à geindre pour réveiller Martignatievna.
Elle se leva enfin, vint auprès de moi, puis, remarquant l'absence de Grigory, elle alla au jardin, où je l'entendis crier. J'étais déjà rassurée. Smerdiakov s'arrêta. Ivan l'avait écouté dans un silence de mort, sans bouger, sans le quitter des yeux. Smerdiakov lui jetait parfois un coup d'œil, mais regardait surtout de côté. Son récit achevé, il parut ému, respirant avec peine, le visage couvert de sueur. On ne pouvait deviner s'il éprouvait des remords. « Un instant, » reprit Ivan en réfléchissant. « Et la porte ? S'il n'a ouvert qu'à toi, comment Grigory a-t-il pu l'avoir ouverte auparavant ? Car il l'a bien vue, le premier. » Ivan posait ses questions du ton le plus calme, de sorte que si quelqu'un les eût observés en ce moment du seuil, il en aurait conclu qu'ils s'entretenaient paisiblement d'un sujet quelconque. Quant à cette porte que Grigory prétend avoir vue ouverte, ce n'est qu'un effet de son imagination, dit Smerdiakov avec un sourire, car c'est un homme très entêté. Il aura cru voir, et vous ne l'en ferez pas démordre. C'est un bonheur pour nous qu'il ait eu la berlue. Cette déposition achève de confondre Dmitri Fiodorovitch. Écoute, dit Ivan, paraissant de nouveau s'embrouiller. Écoute. J'avais encore beaucoup de choses à te demander, mais je les ai oubliées. Ah oui. Dis-moi seulement pourquoi tu as décacheté et jeté l'enveloppe à terre. Pourquoi ne pas avoir emporté le tout? D'après ton récit, il m'a semblé que tu l'avais fait à dessein, mais je ne puis en comprendre la raison. Je n'ai pas agi sans motif. Un homme au courant comme moi, par exemple, qui a peut-être mis l'argent dans l'enveloppe, qui a vu son maître la cacheter et écrire la souscription, pourquoi un tel homme, s'il a commis le crime, ouvrirait-il aussitôt l'enveloppe, puisqu'il est sûr du contenu? Au contraire, il la mettrait simplement dans sa poche et c'est ce qui est vrai. Dmitri Fiodorovitch aurait agi autrement. Ne connaissant l'enveloppe que par oui dire, il se serait empressé de la décacheter pour se rendre compte, puis de la jeter à terre, sans réfléchir qu'elle constituerait une pièce accusatrice, car c'est un voleur novice qui n'a jamais opéré ouvertement, et de plus un gentilhomme. Il ne serait pas venu précisément voler, mais reprendre son bien, comme il l'avait au préalable déclaré devant tout le monde, en se vantant d'aller chez Fiodor Pavlovitch se faire justice lui-même. Lors de ma déposition, j'ai suggéré cette idée au procureur, mais sous forme d'allusion, et de telle sorte qu'il a cru l'avoir trouvée lui-même. Il était enchanté. Tu as vraiment réfléchi à tout cela sur place et à ce moment ? S'écria Ivan Fiodorovitch stupéfait. Il considérait de nouveau Smerdiakov avec effroi. De grâce, peut-on songer à tout dans une telle hâte ? Tout cela était combiné d'avance. Eh bien, c'est que le diable lui-même t'a prêté son concours. Tu n'es pas bête, tu es beaucoup plus intelligent que je ne pensais. Il se leva pour faire quelques pas dans la chambre, mais comme on pouvait à peine passer entre la table et le mur, il fit demi-tour et se rassit. C'est sans doute ce qui l'exaspéra. Il se remit à vociférer. Écoute, misérable, vile créature! Tu ne comprends donc pas que si je ne t'ai pas tué encore, c'est parce que je te garde pour répondre demain devant la justice. Dieu le voit. Il leva la main. Peut-être fus-je coupable, peut-être ai-je désiré secrètement la mort de mon père. Mais je te le jure, je me dénoncerai moi-même demain. Je l'ai décidé, je dirai tout. Mais nous comparaîtrons ensemble. Et quoi que tu puisses dire ou témoigner à mon sujet, je l'accepte et ne te crains pas. Je confirmerai tout moi-même. Mais toi aussi, il faudra que tu avoues. Il le faut. Nous irons ensemble. Cela sera. Ivan s'exprimait avec énergie et solennité. Rien qu'à son regard, on voyait qu'il tiendrait parole. Vous êtes malade. Je vois. Bien malade. Vous avez les yeux tout jaunes, dit Smerdiakov, mais sans ironie et même avec compassion. « Nous irons ensemble, » répéta Ivan. « Et si tu ne viens pas, j'avouerai tout seul. » Smerdiakov parut réfléchir. « Non, Vous n'irez pas,
dit-il d'un ton catégorique.
Tu ne me comprends pas.
Vous aurez trop honte de tout avouer. D'ailleurs, ça ne servirait à rien, car je nierai vous avoir jamais tenu ces propos. Je dirai que vous êtes malade, on le voit bien, ou que vous vous sacrifiez par pitié pour votre frère, et m'accuserez parce que je n'ai jamais compté à vos yeux. Et qui vous croira? Quelle preuve avez-vous?
Écoute, tu m'as montré cet argent pour me convaincre.
Smerdiakov retira le volume, découvrit l'alias.
Prenez cet argent, dit-il en soupirant. Certes, je le prends. Mais pourquoi me le donnes-tu puisque tu as tué pour l'avoir?
Et Ivan le considéra avec stupéfaction.
Je n'en ai plus besoin, dit Smerdiakov d'une voix tremblante. Je pensais d'abord, avec cet argent, m'établir à Moscou, ou même à l'étranger. C'était mon rêve, puisque tout est permis. C'est vous qui m'avez en effet appris et souvent expliqué cela. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vertu, et elle est inutile. Voilà le raisonnement que je me suis fait.
Tu en es arrivé là tout seul ? Dit Ivan avec un sourire gêné.
Sous votre influence.
Alors, tu crois en Dieu, maintenant, puisque tu rends l'argent ?
Non, je n'y crois pas, murmura Smerdiakov.
Pourquoi rends-tu l'argent, alors ?
Laissez donc, trancha Smerdiakov avec un geste de lassitude. Vous-même répétiez sans cesse que tout est permis. Pourquoi êtes-vous si inquiet, maintenant ? Vous voulez même vous dénoncer. « Mais s'il n'y a pas de danger, vous n'irez pas, » dit-il catégoriquement.
« Tu verras bien. »«
C'est impossible, vous êtes trop intelligent. Vous aimez l'argent, je le sais, les honneurs aussi, car vous êtes très orgueilleux. Vous raffolez du beau sexe. Vous aimez par-dessus tout vivre indépendant et à votre aise. Vous ne voudrez pas gâter toute votre vie en vous chargeant d'une pareille honte. » De tous les enfants de Fiodor Pavlovitch, vous êtes celui qui lui ressemble le plus. Vous avez la même âme.
Tu n'es vraiment pas bête, dit Ivan avec stupeur, et le sang lui monta au visage.
Je te croyais sot.
C'est par orgueil que vous le croyez. Prenez donc l'argent.
Ivan prit la liasse de billets et la fourra dans sa poche telle qu'elle. Je les montrerai demain au tribunal. « Dit-il.
Personne ne vous croira. Ce n'est pas l'argent qui vous manque à présent. Vous aurez pris ces 3 000 roubles dans votre cassette. »
Ivan se leva. « Je te répète que si je ne t'ai pas tué, c'est uniquement parce que j'ai besoin de toi demain. Ne l'oublie pas. »
« Eh bien, tuez-moi. Tuez-moi maintenant. » dit Smerdiakov d'un air étrange.
« Vous ne l'osez même pas, » ajouta-t-il avec un sourire amer.
« Vous n'osez plus rien, vous, si hardi autrefois. »«
À demain !»
Ivan marcha vers la porte.
« Attendez, montrez-les-moi encore une fois. »
Ivan sortit les billets, les lui montra. Smerdiakov les considéra une dizaine de secondes.
« Eh bien, allez, Ivan Fiodorovitch » cria-t-il soudain.
« Que veux-tu ? »
Ivan, qui partait, se retourna.
« Adieu !»
« À demain !»
Ivan sortit. La tourmente continuait. Il marcha d'abord, d'un pas assuré, mais se mit bientôt à chanceler.
« Ce n'est que physique, » songea-t-il en souriant.
Une sorte d'allégresse le gagnait. Il se sentait une fermeté inébranlable. Les hésitations douloureuses de ces derniers temps avaient disparu. Sa décision était prise et déjà irrévocable. Se disait-il avec bonheur. À ce moment, il trébucha, faillit choir. En s'arrêtant, il distingua à ses pieds l'ivrogne qu'il avait renversé, gisant toujours à la même place, inerte. La neige lui recouvrait presque le visage. Ivan le releva, le chargea sur ses épaules. Ayant aperçu de la lumière dans une maison, il alla frapper au volet et promit 3 roubles au propriétaire s'il l'aidait à transporter le bonhomme au commissariat. Je ne raconterai pas en détail comment Ivan Fiodorovitch réussit dans cette entreprise et fit examiner le croquant par un médecin en payant généreusement les frais.
Disons seulement que cela demanda presque une heure. Mais Ivan demeura satisfait. Ses idées s'éparpillaient. Si je n'avais pas pris une résolution si ferme pour demain, pensa-t-il soudain avec délices, je ne serais pas resté une heure à m'occuper de cet ivrogne. J'aurais passé à côté sans m'inquiéter de lui. Mais comment ai-je la force de m'observer? Et eux qui ont décidé que je deviens fou? En arrivant devant sa porte, il s'arrêta pour se demander « Ne ferais-je pas mieux d'aller dès maintenant chez le procureur et de tout lui raconter ?»« Non, demain, tout à la fois. » Chose étrange, presque toute sa joie disparut à l'instant. Lorsqu'il entra dans sa chambre, une sensation glaciale l'étreignit, comme le souvenir, ou plutôt l'évocation de je ne sais quoi de pénible ou de répugnant, qui se trouvait en ce moment dans cette chambre et qui s'y était déjà trouvé. Il se laissa tomber sur le divan. La vieille domestique lui apporta le samovar, il fit du thé, mais n'y toucha pas. Il la renvoya jusqu'au lendemain. Il avait le vertige, se sentait là, mal à l'aise. Il s'assoupissait, mais se mit à marcher pour chasser le sommeil. Il lui semblait qu'il avait le délire. Après s'être rassis, il se mit à regarder de temps à autre autour de lui, comme pour examiner quelque chose. Enfin, son regard se fixa sur un point. Il sourit, mais le rouge de la colère lui monta au visage. Longtemps, il demeura immobile, la tête dans ses mains, lorgnant toujours le même point sur le divan placé contre le mur d'en face. Visiblement, quelque chose à cet endroit l'irritait, l'inquiétait.